deuxième rencontre avec qui nous réunir. Sans doute que la réunion de dimanche soir était à certains égards plus facile à présenter que celle de ce soir. Quand on étudie l'Église du Seigneur du côté de Dieu, c'est toujours plus facile que de l'étudier du côté de l'homme. Et lorsque nous avons parlé du rassemblement dimanche soir, nous avons vu que tous ceux qui étaient sauvés par la foi, une foi personnelle dans le Seigneur Jésus, formaient le troupeau du Seigneur dont le Seigneur était le berger, qui appelle chaque brebis par son nom et qui s'occupe d'elle et qui la conduira jusqu'au céleste bercail. Une autre image employée pour l'Église de Christ et que nous avons développée dimanche soir, c'est l'image de la famille. Tous ceux qui ont la vie de Dieu, qui sont engendrés par la parole de Dieu, sont enfants de Dieu et constituent la famille de Dieu dont lui-même est le Père et le Seigneur est le premier-né entre plusieurs frères. Une troisième image sur laquelle nous reviendrons ce soir est l'image de la maison. La maison formé de pierres vivantes, un édifice qui est construit sur la terre, dont la pierre angulaire est Jésus-Christ lui-même, et le bâtisseur est encore Jésus-Christ. Et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. La dernière image que nous avons présentée dimanche soir, et celle qui est propre à l'enseignement apostolique de Paul. C'est l'image d'un corps, d'un organisme vivant sur la terre, dont la tête est Christ assise à la droite de Dieu, et dont nous, comme croyants sur la terre, nous sommes les membres. C'est le Saint-Esprit qui, travaillant dans l'homme, amène l'homme à la connaissance de Christ, et fait que l'homme est en liaison vitale avec cette tête glorifiée dans le ciel qui est Christ lui-même. Nous sommes membres du corps de Christ, et vous êtes membres les uns des autres, dit Paul aux Corinthiens. Qu'il s'agisse des brebis, qu'il s'agisse des enfants de la famille, qu'il s'agisse des pierres vivantes ou des membres du corps, nous entendons par là tous les croyants vivant à un moment donné sur la terre, mais ces images aussi sont employées pour désigner l'Église complète que Christ présentera bientôt dans toute sa beauté, dans toutes ses perfections. Nous arrivons ainsi à cette deuxième question avec qui nous réunir. Et nous avons bien le sentiment que c'est la question la plus délicate et qui exerce le plus le chrétien fidèle. Si Dieu avait été seul à travailler pour former cette Église, tout aurait été parfait, comme tout le sera bientôt. Mais l'homme a été appelé avec sa responsabilité qui est la sienne, à collaborer à cette œuvre de Dieu. Et sitôt que l'homme agit, dans quelque domaine que ce soit, il y amène sa propre nature, ses imperfections, son péché. Si bien que l'Église de Christ doit être considérée sous ces deux aspects, tantôt comme l'œuvre de Dieu, œuvre parfaite et magnifique, et tantôt aussi comme l'homme intervenant dans la constitution de cette Église, et alors c'est l'imperfection, la division, la souillure et tous ces fruits de la chair que nous mentionne l'Épître aux Galates. Les trois points que je désire présenter ce soir sont les suivants. Je rappellerai d'abord le principe fondamental de l'Écriture de la séparation du mal. Puis, je dirai quelques mots d'une parabole qui est souvent citée relativement à l'Église de Christ, la parabole de l'ivraie, dans le chapitre 13 de Matthieu. Et pour terminer, reprenant l'image de la maison, nous verrons ce qu'est devenu dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, cette maison que Christ bâtit sans doute, mais que l'homme aussi a été appelé à bâtir en y amenant tout ce qui est de lui. Pour reprendre le premier point, le principe de la séparation, j'aimerais lire quelques versets dans l'Écriture. Il y en a énormément de versets, j'en ai choisi quelques-uns. D'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er. Au verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit, et il y eut soir, et il y eut matin, premier jour. Évangile selon Jean. Chapitre 1er, versets 4 et 5. En elle, c'est-à-dire dans la parole, cette chair était la vie était la lumière des hommes, et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas compris. Et pour terminer sur ce point, il y aurait beaucoup de passages à lire, mais nous sommes un peu limités par le temps. Je citerai un passage dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 14, 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Béliar? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils, et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Il est extrêmement intéressant que le premier jour de la création de Dieu ait vu la séparation de la lumière et des ténèbres. Et ce n'est pas pour rien qu'au début de la Genèse, nous trouvons ce principe. Dieu est un Dieu de sainteté et il n'y a en lui aucune ténèbre, et tel le Père est saint, tel les enfants sont appelés à sa propre sainteté. Cette sainteté a deux caractères dans l'Écriture. Tantôt, chaque croyant comme individu est appelé à la sainteté, et tantôt, l'Église, comme corps, est appelée aussi à la sainteté. Et ce n'est pas la moindre des choses aujourd'hui, où, dans les fins des temps qui nous atteignent, on appelle le mal bien et le bien mal, que de proclamer que du début de la parole jusqu'à la fin, nous avons le principe de la séparation du mal. Quand l'apôtre Jean présente au premier chapitre dans son prologue de l'Évangile l'arrivée du Seigneur sur la terre, on saisit le parallélisme entre le chapitre premier de la Genèse et ce passage-là. Quand Dieu a appelé toutes choses à l'existence, il a séparé la lumière et les ténèbres. Et quand le Seigneur est venu sur cette terre où le péché dominait, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas compris. Si bien que sur le plan individuel, le chrétien, l'enfant de Dieu, se sépare du mal. Et à chaque étape de sa carrière, Dieu, dans sa miséricorde, lui donne l'énergie de l'esprit en lui pour se séparer du mal dans lequel il se trouve. Par nécessité, puisque le Seigneur a fait monter devant son Père cette prière admirable, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Je ne te demande pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Cette prière que le Seigneur a adressée alors qu'il allait quitter les siens, nous pouvons bien la formuler encore ce soir pour que nous soyons gardés par la grâce de Dieu dans la piété et dans la sainteté pratique. À tous les âges de la vie chrétienne, il y a des dangers, et à tous les âges de la vie chrétienne, il y a des luttes. Et ce passage de l'épître de Jean, j'aimerais le rappeler, « Je vous écris, jeunes gens, pour la jeunesse, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le méchant. » Il y a, dans les convoitises de la jeunesse, une lutte quant à la sainteté, mais il y a aussi une force que Dieu donne pour marcher à la gloire du Seigneur à toutes les étapes de la vie chrétienne. Mais ce principe de la séparation que nous avons présenté jusqu'à maintenant sur le plan individuel, et c'est là où nous arrivons à un point très délicat, ce principe de la séparation est présenté dans l'Écriture en relation avec l'Église de Christ. La parole que l'Éternel adresse à Jérémie, « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche », est un principe valable. Et là où est Christ, là il y a des exigences de sainteté, et là où les saints se rassemblent, là il doit y avoir aussi une séparation du mal. Seulement, cette séparation du mal ne peut pas être exercé si dans la vie individuelle des frères et des sœurs, il n'y a pas également une séparation du mal. La séparation collective sera inévitablement le reflet de cette séparation individuelle et pratique dans la marche quotidienne. Quand le Seigneur demandait à son Père que ses disciples soient gardés, il s'adressait à un Père Saint, pour que ses enfants qui soient sur la terre aient aussi ce caractère de sainteté. Quand l'Église, au début, à partir de la Pentecôte, a été formée par l'activité du Saint-Esprit, le mal a été ôté avec puissance de l'Église de Christ. Et nous ne lisons pas sans beaucoup de tremblement l'histoire d'Ananias et de Saphira dans le livre des Actes, qui, ayant commis, nous semble-t-il, un péché pas très grave, sont repris sévèrement par l'apôtre Pierre parce qu'ils avaient menti à l'Esprit-Saint et qu'ils ont été tous les deux frappés de mort parce qu'ils avaient amené dans l'Église naissante un mal qui déshonorait la sainteté du Seigneur. Et si nous suivons ce principe de la séparation collective, nous voyons que le Seigneur a averti ses disciples, nous sommes avertis. Dans les paraboles du royaume, il leur a montré que ce mélange se produirait. Et l'une des paraboles les plus intéressantes à cet égard et que je désire présenter brièvement ce soir est la parabole de l'ivraie. Dans le chapitre 13 de Matthieu, où nous avons les sept paraboles du royaume, j'aimerais rappeler la parabole de l'ivraie. Au verset 24e, il leur proposa une autre parabole disant « Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment et s'en alla. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Et les esclaves du maître de la maison s'approchant lui dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur dit « Un ennemi a fait cela. » Et les esclaves lui dirent « Veux-tu donc que nous allions et que nous l'accueillions ?» Et il dit « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en bosse pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Lorsque le Seigneur est entré dans la maison, un peu plus loin, il donne l'explication de la parabole à ses disciples seulement, pas aux foules. Au verset 36e. Alors, ayant congédié les foules, il entra dans la maison. Et ses disciples vinrent à lui disant, expose-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et lui répondant leur dit, celui qui sème de la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, et le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du méchant. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la consommation du siècle. Et les moissonneurs sont des anges. Comme dont l'ivraie est cueillie et brûle au feu, il en sera de même à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges et cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Il y a des oreilles pour entendre ce qu'il entend. Il est bien clair que la notion du royaume des cieux ou du royaume de Dieu dans l'Écriture est plus large que la notion de l'Église. Mais disons cela pour simplifier. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au moment où le Seigneur enlèvera son Église, le royaume des cieux ou de Dieu est un royaume en mystère, moralement parlant. Où la royauté de Christ s'exerce-t-elle maintenant? Elle s'exerce, cette royauté, par le fait qu'il y a des croyants sur la terre qui obéissent à ce roi. C'est donc un royaume en mystère parce qu'il n'est pas géographiquement situé. Il y a des croyants dans toutes les parties du monde. Et ces croyants, s'ils aiment le Seigneur, ils se soumettent aux enseignements du Seigneur. Et c'est là la forme actuelle du royaume des cieux. Quand il est question de semences répandues dans la parole, il est en général fait allusion à une doctrine qui se répand. Comme un semeur répand la semence, ainsi le prédicateur ou le docteur répand un enseignement. Cet enseignement peut être, selon Dieu, c'est de la bonne graine. Il peut être un enseignement de démon, c'est une expression d'écriture, c'est livré. Et un ennemi opère ce travail. Et si l'on songe depuis l'Église naissante jusqu'à aujourd'hui, toutes les doctrines monstrueuses quelquefois et fausses qui ont été annoncées, prêchées, défendues dans le cadre même de la chrétienté, on comprend la force que prend cette parabole de l'ivraie. Nous n'allons pas ici faire l'énumération de toutes les fausses doctrines qui sont apparues dès la naissance de l'Église. Mais c'est dans le cadre de l'Église chrétienne que ces fausses doctrines ont pris naissance. Elles ne pouvaient pas prendre naissance ailleurs, puisque c'était des doctrines qui étaient opposées à la vérité chrétienne. Il fallait donc que le berceau de ces doctrines fût la chrétienté elle-même. Et alors, qu'a-t-on fait dans l'histoire de l'Église? On a voulu quelquefois arracher l'ivraie avec le bon grain. Et qu'a-t-on fait en arrachant l'ivraie, c'est-à-dire en mettant à mort ceux que l'on appelait les hérétiques? Eh bien, on a quelquefois fait mourir précisément le bon grain. Il suffit de rappeler le supplice d'un réformateur comme Jean Hus, lorsqu'il a été brûlé à Constance et que ses cendres ont été répandues dans les eaux du Rhin, et que c'est dans une église, dans la cathédrale même de Constance, que Jean Hus a entendu sa sentence de mort. Et il y avait un endroit qui aujourd'hui n'est plus indiqué, pour des raisons assez claires, où il était écrit dans cette cathédrale, là Jean Hus a entendu sa sentence de mort. Or, en voulant ôter ce qu'on considérait comme livré, on a fait périr l'un des plus authentiques représentants de l'évangile de Christ. Nous pourrions multiplier les exemples où l'on n'a pas agi comme le Seigneur le dit, où l'on a voulu ôter l'ivraie et la séparer du bon grain, et en ôtant l'ivraie, on a arraché le bon grain. Si bien que cette parabole de l'ivraie, sous cette forme imagée que le Seigneur explique dans la maison à ses disciples, ne doit pas être impliquée quant à la discipline morale dans l'assemblée de Dieu. C'est un autre sujet que cette parabole de l'ivraie. Sans doute que des chrétiens, des prédicateurs, des hommes de Dieu ont été suscités pour lutter contre l'erreur. Mais quand ces prédicateurs ou quand ces hommes de Dieu ont voulu lutter avec des armes charnelles, eh bien, le résultat a toujours été catastrophique. Il s'agit donc, dans la parabole de l'ivraie, de doctrine bonne, chrétienne répandue et de doctrine mauvaise répandue. Et c'est le Seigneur qui tranchera au jour du jugement ce qu'il en est et de l'ivraie et du bon grain. Mais revenons maintenant à ce principe de la séparation relativement à l'Église historique et à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et j'aimerais lire encore un texte dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3. 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un, il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte. Mais lui-même, il sera sauvé toutefois comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. La maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église qui se construit sur la terre, est donc présentée sous deux aspects dans l'Écriture. Le premier aspect est celui de l'Évangile. « Je bâtirai mon assemblée. » Il n'y a que des pierres vivantes. C'est un édifice construit par Christ. Mais il y a aussi cet édifice qui est plus large que la vraie maison où entre tout ce qu'on appelle les protestants. Et c'est le principe du multitudinisme. Le principe du multitudinisme consiste à accepter dans l'Église de Christ tous ceux qui veulent s'approcher, qu'ils aient la vie ou qu'ils n'aient pas la vie. Or, ici, il y a trois groupes d'ouvriers qui travaillent à cet édifice. Il y a un bon ouvrier qui amène du bon matériau, or, argent, pierre précieuse. Il y a un ouvrier qui est sauvé pour finir comme à travers le feu, mais qui amène des mauvais matériaux, du bois, du chaume. Et puis, pour finir, alors, il y a celui qui corrompt le temple de Dieu, qui est donc en fait, dans le cadre de cette maison, un ennemi de Dieu, et celui-là, Dieu le détruira. Alors, il y a un exercice de la part du serviteur du Seigneur, parce que ces matériaux, que sont-ils? Sans doute, sont-ils la doctrine enseignée dans le cadre de l'Église de Christ, mais ils sont aussi les personnes que l'on considère comme faisant partie de cet édifice. Et alors, s'il n'y a pas d'examen de la part de l'Assemblée relativement à la sainteté de l'Église de Christ, si les matériaux sont amenés et mélangés, alors il y aura inévitablement ce feu qui est le jugement et qui éprouvera le travail de chacun. Ces trois groupes, le bon ouvrier, le bon matériau, l'ouvrier sauvé à travers le feu, le mauvais matériau, le bois étant le plus résistant, et enfin celui qui corrompt le temple de Dieu et Dieu le détruira, nous pourrions montrer de nombreux exemples historiques qui prouvent la chose. Mais cette maison, et c'est par là que nous terminerons, cette maison, dans son sens large, qui ne correspond plus exactement au corps de Christ, puisque le corps de Christ n'est formé que de chrétiens vivants, ayant la vie de Dieu en eux, tandis que cette maison comprend et les chrétiens qui ont la vie, et ceux qui ont la forme de la piété, mais qui n'en ont pas la puissance, cette maison-là, nous y sommes et nous y resterons jusqu'au bout. Elle est devenue la grande maison. Comment se conduire dans cette grande maison? Parce que nous voyons que dans cette grande maison, il y a deux éléments. Il y a les éléments qui sont en relation vitale avec Dieu et dont la perspective finale est la gloire du ciel. Et puis, il y a les éléments qui sont là pour toute espèce de raison étrangère à la vie de Dieu et dont la fin sera l'apostasie. Et rien n'est plus poignant que ces accents des apôtres, surtout à la fin de leur carrière, qu'on lit assez rarement, peut-être trop rarement dans les assemblées de Dieu, telle la seconde épître de Pierre, telle la seconde épître à Timothée, telle l'épître de Jude, où retentissent avec une angoisse profonde de la part des apôtres la perspective de cette Église de Christ qui serait contaminée par toutes ces doctrines et ces éléments étrangers. Et alors, quand le Seigneur viendra, la vraie Église, elle, sera enlevée, mais l'Église formaliste et sans vie sera là pour donner ce qu'il faudra pour former l'Église apostate qui endurera un jugement inexorable.
Comme nous venons de l'entendre, la parole de Dieu fait une distinction très positive entre ce qui est d'une part l'Église de Christ, l'Assemblée de Dieu, composée de pierres vivantes, corps de Christ, et l'Église confiée à la responsabilité de l'homme, ce que nous pourrions appeler l'Église historique, telle qu'elle s'est développée sur la terre. Et les deux perspectives existent parallèlement. Ou plutôt, dans le cadre de l'Église historique, avec toutes ses ramifications, avec toutes ses terres et ses déchets, il y a les vrais enfants de Dieu que le Seigneur connaît, qu'il voit tous, qu'il connaît tous, et qui forment aujourd'hui même encore le corps de Christ, la maison de Dieu composée de pierres vivantes. Et alors vient cette question qui est devenue tragique aujourd'hui. Avec qui se réunir? Avec qui exprimer, montrer que nous faisons partie, comme croyants, comme enfants de Dieu, du corps de Christ, de la famille de Dieu? Bien sûr, uniquement en se réunissant avec de vrais croyants, avec ceux qui ont la vie. Nous l'avons déjà vu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés de Dieu. Cela implique d'emblée qu'un rassemblement qui veut exprimer, veut montrer quelque chose de la vraie Église du Seigneur ne peut être formé que sur la base de ceux qui ont la vie de Dieu. Or, comment pouvons-nous savoir que telle était vraiment la vie de Dieu? Sans entrer dans tous les passages, nous avons par exemple dans l'Évangile le Seigneur parlant de ceux qui viennent à vous en habit de brebis, qui ont l'apparence d'être des brebis. Et puis il dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. On ne cueille pas des figues sur les épines. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Alors la vie de Dieu dans un croyant se manifeste, elle se montre. Si elle ne se montre pas, nous ne sommes pas autorisés à penser que c'est un croyant. C'est Jacques 2. Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Si la foi ne se montre pas par des œuvres, elle est peut-être là, Dieu la connaît. Mais pour ce qui nous concerne, en tant qu'hommes sur la terre, nous ne pouvons discerner la foi de quelqu'un que par les œuvres qu'elle produit. D'où la nécessité pratique. Lorsque quelqu'un désire s'approcher de la table du Seigneur, de se rendre compte s'il y a les fruits de la vie, s'il y a vraiment les fruits de la vie de Dieu. Il ne suffit pas de dire, oh oui, je crois au Seigneur Jésus. Et il y en a beaucoup qui disent, Seigneur, Seigneur, mais tu as annoncé la parole dans nos rues, nous avons mangé avec toi. Et le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Ce ne sont pas les paroles de celui qui se présente, qui sont un témoignage, sans doute, si elles sont le fruit de l'Esprit de Dieu, mais ce ne sont pas les paroles seulement, mais le fruit de la vie de Dieu dans la vie qui montre si quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu ou pas. Donc, tout d'abord, seulement de vrais croyants, de vrais enfants de Dieu, dont on peut discerner qu'ils ont la vie par le fruit qui est produit, ou bien faiblement peut-être, mais quand même quelques fruits qui est produit dans leur vie, c'est le fruit de l'Esprit. Et au premier temps de l'Église, lorsqu'au début des Actes, les croyants se réunissaient, n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, il n'y avait pas d'autre problème. Ceux qui confessaient Jésus comme sauveur, ceux qui montraient qu'ils étaient à lui, ils étaient ajoutés à l'Assemblée. Pas de problème. Mais avec ce mal qui s'est introduit dans la communauté chrétienne, comme nous l'avons vu en Corinthiens 3, la parole a introduit des limitations à cette expression de la communion des enfants de Dieu. La première, nous l'avons dans 1 Corinthiens 5, c'est la limitation morale. 1 Corinthiens 5, après avoir rappelé le cas évidemment très grave de quelqu'un qui aurait la femme de son père, l'apôtre ajoute au verset 6, votre ventrie n'est pas bonne, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Verset 11. Mais maintenant, je vous y écris que si quelqu'un appelé frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car qu'est-ce à faire de juger ceux de dehors aussi? Vous ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans? Ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Il y a ici le cas d'un mal, appelons-le moral, pour le distinguer, le grave, dans la marche de quelqu'un qui est appelé frère. La parole ne dit pas s'il est vraiment un frère ou s'il ne l'est pas, il est appelé frère. Il a été reconnu comme tel. Mais voilà que dans sa vie, il n'y a non pas un accident qui survient, l'accident nous l'avons dans Galatie, que quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque chose. Mais quelqu'un dont la marche est marquée par une faute grave, dont on a un certain nombre d'exemples, et qui de ce fait revêt le caractère de méchant. Encore une fois, ce n'est pas un accident qui est arrivé, nous manquons tous à plusieurs égards, mais quelqu'un qui est marqué par une faute et plusieurs fautes répétées graves. Alors, l'Assemblée est appelée à se purifier de ce mal, à ôter le méchant du milieu d'elle-même. Donc, il importe de ne pas exprimer la communion avec une personne dont la vie pratique comporterait un mal du genre de ceux qui pensent qu'il est ici ou similaire, qui lui donne ce caractère de méchant, c'est la limitation morale. Si nous passons à l'épître aux Galates, nous voyons qu'avec une indignation encore beaucoup plus grande, l'apôtre s'en prend à ceux qui ajoutent à l'évangile ou qui déforment l'évangile. Galates 1, verset. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait, outre que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Nous vous l'avons dit, maintenant aussi je le dis encore, si quelqu'un vous évangélise, outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un ajoute à l'évangile, si quelqu'un pervertit l'évangile du Christ, eh bien, il doit être entièrement mis de côté, laissé de cause. On voit dans la suite de l'Épître, sans entrer dans les détails, que c'était les œuvres, la circoncision, les mérites, qu'on ajoutait à l'Évangile. Alors l'apôtre dit au chapitre 5, au verset 7, vous courriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. Voilà le mal doctrinal en rapport avec l'Évangile. À la fin de l'Apocalypse, une malédiction particulière est invoquée sur ceux qui ajoutent à la parole et sur ceux qui retranchent. Dans la deuxième épître de Jean, nous avons un autre genre d'erreurs sérieuses, celles qui sont relatives à la personne de Christ. 2 Jean verset 7. Plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde. Ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant d'enchaîner, celui-là est séducteur et l'antichrist. Verset 9. Quiconque vous mène en avant ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Nous savons que depuis le début de l'histoire du christianisme, l'ennemi a semé de livrer en rapport avec la personne de Dieu, pour attaquer ou sa divinité, ou son humanité, ou sa perfection, ou son obéissance, et tant d'autres choses. Nous avons aujourd'hui combien de personnes dites chrétiennes qui revêtent des charges dans ce qui est appelé l'Église, ne croient pas à la divinité de Jésus. Et alors, l'apôtre dit très clairement, si quelqu'un vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, il n'a pas Dieu, si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison de Saint-Jean. Il y a une troisième catégorie, si on peut dire l'erreur que l'on a dans le titre, c'est le cas de l'homme sectaire, c'est celui qui veut former un groupe, une communauté, autour de certaines idées justes, mais dont il fait un drapeau de ralliement. Rejette l'homme sectaire après une première et une deuxième administration. Et on peut trouver encore d'autres exemples. La parole déclare, que cela nous plaise ou ne nous plaise pas, que lorsqu'une doctrine erronée porte atteinte à l'Évangile, à la personne du Seigneur, ou conduit à une secte, il faut rejeter, se séparer de ceux qui apportent de telles doctrines. Il y a une troisième chose qui ressort de ces passages. Dans 1 Corinthiens 5, ce mal moral est comparé à du levain qui, s'il est maintenu dans la masse de la pâte, va contaminer toute la pâte. On le sait, mais c'est actuel, mais autrefois nous aimions aller voir le boulanger préparer sa pâte, il y avait un petit peu de levain, ou un morceau de vieille pâte qu'il mélangeait à la masse qu'il pétrissait et il laissait le tout reposer et on voyait cette pâte lever lentement, quelques heures après, tout était levé. C'est un exemple, une illustration que l'apôtre prend pour montrer que le levain qui est une figure du mal, lorsqu'il est maintenu, lorsqu'il est conservé dans une masse, dans un rassemblement, ici c'était la tombée de Corinthe, eh bien il va corrompre toute la masse. C'est-à-dire que si des personnes qui ont un caractère de méchant, pour des fautes graves, sont maintenues dans la communion d'un rassemblement, tout le rassemblement en devient correspondant et en devient corrompu. Et alors la même figure est employée dans les Galates à propos de ceux qui portaient atteinte à l'intégrité de l'Évangile, de ceux qui voulaient pervertir l'Évangile du Christ. Nous l'avons lu dans Galates 5, il est dit tout aussi clairement et douloureusement. Galates 5 au verset 9, un peu de levain fait lever la pâte tout entière. J'ai confiance à votre égard par le Seigneur, vous n'aurez point d'autres compliments, mais si vous trouvez, quel qu'il soit, on portera le jugement. Si vous acceptez, si vous gardez au milieu de vous, si vous exprimez la communion avec ceux qui peuvent pervertir l'Évangile, eh bien le levain qu'ils apportent va corrompre toute la pâte. Il va faire lever la pâte tout entière. Et dans l'Épître de Jean, nous l'avons vu, celui qui reçoit quelqu'un qui n'apporte pas la doctrine de Christ, qui le salue, c'est-à-dire qui invoque sur lui la bénédiction de Dieu, il s'agit pas simplement d'une salutation de politesse, ne le saluez pas, car celui qu'il salue participe à ses mauvaises œuvres. Accueillir quelqu'un qui apporte une doctrine erronée à la personne de Christ, eh bien, c'est participer à ses mauvaises œuvres. Et voilà ces trois points pénibles, mais que la parole présente très clairement, qui empêche la communion avec tous les croyants. Ou ceux qui se disent, celui qui a appelé frère,
est marqué dans ta marche par les manquements graves qui font de lui un méchant, celui qui porte atteinte à l'évangile et à son enseignement de grâce, le salut, celui qui porte atteinte à la personne de Christ, à la doctrine de Christ, qui a ôté le méchant, qu'il soit anathème, ne le recevez pas. Et puis, si vous le laissez, eh bien, c'est du levain qui va corrompre la pâte de son Dieu. Ce sont donc des limitations que la parole a apportées à cette expression de la communion. On voudrait se trouver seulement entre enfants de Dieu, avec tous les enfants de Dieu. Et voilà, l'ennemi a très bien suffi pour que il y ait dans ce qui est, qui porte le nom d'Église ou de chrétienté, il y ait non seulement des personnes qui n'ont pas la vie, mais même des personnes qui, ayant la vie, ont des manquements tels qu'elles ne peuvent pas être reçues à la communion ou restent associées avec ceux qui sont ainsi marqués. Et c'est là que le problème est devenu de nos jours, la question est venue de nos jours très difficile, parce qu'il s'est formé une quantité de communautés chrétiennes, dans le protestantisme en particulier, où il y a des enfants de Dieu, certainement. Il y en a où ce ne sont pas des enfants de Dieu, mais il y en a où il y a un mélange d'enfants de Dieu et d'autres personnes. Il y en a où ce sont de vrais enfants de Dieu, mais on a des enseignements qui portent atteinte quand même à l'évangile. On n'a pas une vue claire de la personne du Seigneur, d'autres enseignements fondamentaux. Et on reste là et on est lié à ces milieux. Et alors, on devient tout responsable. C'est la masse qui a été contaminée par le levain. Sans qu'on soit le levain soi-même, mais étant dans la masse où se trouve le levain. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 3 cette figure de la maison, dont l'édification est confiée à l'homme, comme notre Père l'a relevé, ou alors il n'y a plus seulement de l'or et de l'argent et des pierres précieuses, mais du bois, du foin et du chaume, et où il y a aussi des choses corrompues. Et dans la seconde épître à Timothée, la dernière épître de l'apôtre est écrite. Il en vient à parler non plus seulement d'un édifice, l'édifice de Dieu confié à l'homme, où il y a du mélange, mais ce qu'il appelle une grande maison. Il nous faut lire le passage dans son ensemble de Timothée 2, depuis le verset 15 au verset 14. Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur, qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit pour la subversion des religieux. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité, mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété. Leur parole rongera comme une gangrène, dès qu'elles sont inanéliées filettes, qui sont écartées de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, qui renverse la foi de quelques-uns. Voilà un état de choses qui s'était développé, semble-t-il, du vivant déjà de l'apôtre Paul, mais qui s'est développé encore plus ensuite, où il y avait des disputes de mœurs, où il y avait des discours vains et profanes, où il y avait des paroles ou des doctrines qui rongeaient comme une gangrène, où il y avait des hommes qui se sont écartés de la vérité, dans le cas particulier disant que la résurrection a déjà eu lieu, et d'autres dont la foi était renversée. Et alors l'apôtre en vient à comparer cela à cette grande maison. Toutefois le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont saints, et qu'il se retire de l'iniquité qui prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de fer. Et les uns honneurs, les autres à des honneurs. dont quelqu'un se purifie de ceci, il sera vase à honneur, sanctifié, utilisé, préparé pour ce bonheur. Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et si ces questions folles et intensives, sachant qu'elles vont rendre des contestations, il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit tout en vertu, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants à son don, si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, ils ne se réveilleront pas du piège du diable parce qu'ils ont été pris pour faire sa volonté. Il y a dans ce passage qui a retenu tout particulièrement l'attention de nos frères il y a bientôt 150 ans, deux grands principes, deux grandes vérités essentielles. Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ce qui contient. Tout ce que nous avons vu dimanche soir, fondement de Dieu, troupeau du berger, famille de Dieu, maison de Dieu composée de pierres vivantes, corps de Christ, c'est notre grande consolation, notre grande certitude aussi de la foi. Aux yeux de Dieu, il y a aujourd'hui encore le corps de Christ composé de vrais membres qui ont la vie, une famille de Dieu composée de vrais enfants de Dieu. Le Seigneur les connaît. Nous ne les connaissons pas tous. Nous ne les discernons pas tous. Par suite de toutes sortes de circonstances, nous ne pourrions pas connaître tous. Mais le Seigneur connaît ceux qui sont saints, et ce qui est de Dieu, ce que le Seigneur a fait, demeure. Je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Le deuxième principe, c'est qu'il se retire de l'iniquité si on prononce le nom du Seigneur. Et quand il parle ensuite de vases d'or, d'argent, de bois de terre, les uns honneurs, les autres à déshonneur, si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur sanctifié. Il y a une séparation qui doit se produire, nous l'avons vu, le principe de la séparation au début de cette réunion, une séparation qui doit se produire de ce qui est assez d'iniquité et de ce qui est assez de vase à déshonneur. Je crois que dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs exemples, celui du veau d'or, de ce qui s'est passé après l'incident du veau d'or, nous aide à comprendre ce principe. Je ne vais pas allonger trop, mais il faudrait quand même lire juste un ou deux versets dans l'Exode, parce que c'est un passage qui aide bien à comprendre. Exode 33. Le peuple, pendant que Moïse était sur la montagne de Sinaï, avait donc fait un veau en or, et on avait fait un objet d'adoration. Lorsque Moïse descend du Sinaï, il est pris de colère, à la vue de ses idolâtries, de détruire ce veau et châtier le peuple. 3000 hommes sont mis à mort, et ensuite l'Éternel dit qu'il est un peuple pour roi et qu'il ne veut plus monter avec lui. Alors il nous est dit au verset 7, Moïse prit une tente, elle attendit pour lui hors du camp, loin du camp. Il appelle la tente d'assignation. Et il arriva que tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et il arriva que lorsque Moïse sortit vers la tente, tout le peuple se leva, de chacun à l'entrée de sa tente, et suivit des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il entra dans la tente. Et il arriva que quand Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit, et se tint à l'entrée de la tente, l'Éternel parla avec Moïse. Le mal était entré dans le camp d'Israël, l'idolâtrie. Tout le peuple y avait participé. Et alors que fait Moïse? Hors du camp, loin du camp, il prend une tente, il appelle la tente d'assignation ou la tente de rencontre, et les personnes d'Israël ont deux réactions vis-à-vis de cet acte de Moïse. Au verset 7, tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Tandis qu'ensuite, au verset 8. Tout le peuple se leva et se tint chacun à l'entrée de sa tente et suivit des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il entrât dans la tente. Il y en avait donc qui restaient dans le camp, dans leur tente, qui suivaient des yeux Moïse qui s'en allaient vers cette tente qu'il avait dressée, mais un certain nombre de personnes quittaient le camp et suivaient Moïse vers cette tente de réunion, cette tente d'assignation. Et que s'est-il passé? Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit et se tint à l'entrée de la tente. Comme si Dieu disait, eh bien ma présence, marquée par la colonne de nuée, se retire du milieu du camp et vient se placer sur cette tente de mise à part hors du camp. Elle a été ensuite changée, le principe est là. Et alors, dans l'épître aux Hébreux, nous avons une allusion à cet incident, lorsqu'il nous est dit, au verset 13, Hébreux 13, verset 13, sortons vers lui hors du camp, portant en notre homme. Alors, nous n'avons pas été idée permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Offrons donc par lui son tête à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Sortons vers lui hors du camp. Dans cet ensemble, dans cette grande maison, où il y a des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre, il y a un parallélisme évidemment avec un Corinthiens 3. Dans cette maison où il y a des vases à honneur et des vases à déshonneur, il n'est pas dit que c'est la vie ou n'est pas la vie, mais d'après leur conduite morale ou doctrinale, vases à honneur ou à déshonneur. Dans ce grand mélange, eh bien, le croyant est appelé personnellement à se retirer de l'iniquité, à ce qui est marqué par ce que l'homme a institué, par ce que l'homme a fait, à se purifier de ceux qui sont entachés ou rattachés au mal ou à l'erreur, et ensuite de poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On pourrait dire, eh bien, s'il y a tant de confusion dans l'Église chrétienne, je ne vais plus me réunir avec personne. Et cela existe. Il y a des croyants, il y en a même de très fidèles aujourd'hui, et nous devons respecter leur conscience, qui pensent que c'est le chemin pour eux. Ils ne se rattachent à aucune congrégation. Ils vont là où le Seigneur les conduit, présenter la parole, et reste en dehors de tout rattachement à aucune congrégation. Et ça peut paraître intéressant. Mais si on lit tout le passage, l'apôtre dit « Poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Ne pas rester seul, mais se retrouver avec ceux qui invoquent le Seigneur, qui désire s'adresser à lui, qui désire offrir le fruit des lèvres, qui bénisse son nom. Il n'est pas dit ici qu'il invoque avec toute la connaissance de la vérité, mais qu'il invoque d'un cœur pur. C'est-à-dire qui ont été exercés intérieurement dans leur cœur, dans leur âme, pour chercher à faire la volonté de Dieu, se retrouver ensemble pour poursuivre la justice pratique, la foi, non seulement la foi conscience, mais la foi sans doute doctrine chrétienne, l'amour, la paix, se retrouver ensemble. Et alors, Épître aux Hébreux, sortons vers lui. Et l'on en revient au berger qui est au centre du troupeau, le berger qui attire les brebis parce que c'est le berger. Et ce groupe autour de lui qui est le centre. On en revient au premier-né entre plusieurs frères, qui veut avoir ses frères avec lui, me voici moi, les enfants que Dieu m'a donnés. Et on en revient à la pierre de fondement de la maison de Dieu, Christ, pierre du coin. Et on en revient à la tête glorifiée. Et alors, se réunir comme membre de son corps, comme enfant de la famille de Dieu, comme brebis du bon berger, comme pierre vivante de la maison de Dieu, se retrouver ensemble autour du Seigneur comme tel, non pas pour fonder une congrégation, non pas pour former une entité nouvelle, mais parce que le Seigneur nous a mis ensemble. Se réunir avec ceux qui désirent faire de même, et invoque le Seigneur dans leur cœur, qui forcément ont réalisé avec faiblesse, mais enfin dans la mesure, dans une mesure selon Dieu, peut-être sortir d'humilité, de se purifier de ce qui est au déshonneur du Seigneur, et se retrouver ensemble autour du Seigneur. C'est ce qui est apparu, si l'on peut dire, on peut le lire dans leurs premiers écrits, à nos frères, il y a 140, 150 ans, comme le chemin du Seigneur, et qui les a poussés à se réunir au nom du Seigneur, non pas pour former quelque chose de nouveau, mais pour exprimer ensemble qu'ils étaient des membres du corps de Christ, enfants de la famille de Dieu qui arrivant de sa maison, pour ensemble annoncer la mort du Seigneur et exprimer aussi la communion à la table du Seigneur. Nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul cœur, car nous participons tous à un seul et même pain. Et l'on exprime que l'on est membre du corps de Christ en participant à ce seul pain. Nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Par l'acte de participer, l'on exprime, c'est le seul témoignage façon que l'on puisse donner aujourd'hui à l'unité du corps de Christ et de participer à ce pain. La scène dans la communion de tous ceux qui font partie du corps de Christ, mais en l'exprimant dans la séparation du mal autour du Seigneur. Nous comprenons bien que c'est difficile de présenter cela en une demi-heure, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est quand même cette idée essentielle. Ce qui est de Dieu demeure. L'ennemi a pu faire beaucoup de ravages, mais le Seigneur connaît ce qui contient. Et lorsqu'il viendra, il saura enlever toute son Église, tous ceux qui lui appartiennent. Eh bien, maintenant, dans la communion spirituelle avec tous ces rachetés que nous ne connaissons pas de loin d'où, nous nous retrouvons autour du Seigneur Jésus comme membre de son cœur. Dans la mesure où nous arrivons à le réaliser dans la séparation du mal moral et doctrinal et de l'association avec le mal, nous venons rendre culte, nous venons prier, nous venons nous édifier l'un l'autre, nous venons rendre à Dieu ce qu'il désire. Bien, c'est quand même, malgré tout ce qui se rattache à ce rassemblement de faiblesse, de conséquences de manquements passés et présents, il reste quand même la joie de se retrouver autour du Seigneur, non pas pour former la congrégation d'eux, mais comme membre du corps de Christ qui embrasse vraiment dans leurs pensées, dans leurs affections, les enfants de Dieu, et qui sont disposés à les accueillir. Il n'y a pas, dans leur cas particulier, les limitations de la parole amie. Il faut que cela soit pour nous, c'est pour nous, la joie du rassemblement autour du Seigneur, malgré tout ce qu'il y a, il ne répond plus à la pleine pensée de la parole, et sans prétendre être plus que qui que ce soit d'autre. On a lu et relu les sept épîtres de l'Apocalypse, les épîtres que l'apôtre est invité à envoyer à cette assemblée, Apocalypse 2 et 3. Sont comme une histoire prophétique de l'Église sur la terre. Et il y en a cinq qui commencent par cette expression « Je connais tes œuvres ».« Je connais », c'est-à-dire c'est moi qui apprécie. C'est moi qui sais ce qu'il y a dans chaque assemblée, dans chaque rassemblement. « Je connais tes œuvres ». Avoir affaire avec le Seigneur, chercher l'approbation du Seigneur, comme il est dit à Timothée, « Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu ». Et puis laisser au Seigneur le soin de juger les œuvres des hommes. Seigneur peut dire à chaque congrégation, je connais tes uns. Il le dit à Thiaty, où il y a beaucoup de mal. Il le dit à Philadelphie, où il ne relève pas de mal. Il dit, je connais tes uns. C'est lui qui connaît, ayant affaire avec lui, cherchant son approbation, sa présence, son secours. Alors nous aurons quand même la joie de pouvoir nous réunir autour de lui. Dans le sentiment de la faiblesse et de Simon, et dans la reconnaissance de tout ce qu'il nous donne, malgré tout ce qui a manqué de notre part. Si le Seigneur le permet, nous reviendrons dimanche sur le comment nous réunir. C'est toujours bon de reprendre ce que la parole nous dit à ce sujet. J'aurais voulu relever deux brochures parmi les diverses qui sont là. Une intitulée « Qu'est-ce qu'une réunion d'assemblée ?» La première partie de cette brochure résume brièvement, mais très clairement, ce que nous avons essayé de dire ce soir quant à la base de l'assemblée, le corps de Christ, la maison de Dieu et ce qui en découle. Une autre brochure qui est utile pour que nous saisissions bien ou mieux ce que c'est que d'être réuni comme membre du corps de Christ est intitulé « Qu'est-ce qu'une fête ?». Cette brochure avait été écrite par le frère Wigram, c'était l'un des saints qui s'était réuni avec M. Darby la première fois, et qui a vécu à peu près aussi longtemps que lui, je crois un peu moins. Cette brochure a été écrite donc du vivant de Darby. Et si on la considère avec réflexion, on saisit mieux ce que c'est que d'être réuni comme membre du corps de Christ, non pas pour former une tête ou quelque chose de séparé, mais vraiment comme membre de ce corps qui embrasse tous les enfants de Dieu qu'on aimerait en voir tous autour du Seigneur. Et enfin, par la foi, on les voit et on se réunit autour du Seigneur et par des amis.